Si j'ai bien compris, la communication, vous l'avez...
Oui, Fabienne et moi.
À deux.
Oui.
Avec un collègue, sauf que le collègue n'a pas pu venir parce qu'il a eu un empêchement. Donc en fait, c'est Monica Jan et Javier Vicente qui sont à l'origine de ce que vous allez entendre. Et c'est donc Monica qui va vous la présenter. Tous deux, les collègues de Saragosse, étant professeurs au département de français à l'université de Saragosse. Spécialistes en linguistique française synchronique, terme que je qualifierais de barbare. Spécialistes en linguistique française synchronique, leurs travaux s'inscrivent dans le domaine de la pragmatique, de la sémantique et de l'analyse du discours, de la traduction et de la didactique du FLE. Noble matière.
Oui.
Ils appartiennent donc au laboratoire Discurso Cultura Linguistica y Enseñanza del Francés, avec donc des apports du ministère de l'économie et de la compétitivité et du gouvernement d'Aragon. Voilà, donc nous avons ici quelque chose qui va justement compléter ce que nous n'avions pas eu, puisqu'il s'agit en fait de linguistique, traduction et didactique, et nous t'écoutons avec l'oreille grande ouverte.
Bon, d'abord, je voudrais féliciter les organisateurs du colloque pour leur entreprise précieuse et super. Ensuite, je voudrais remercier Jocelyne et Pilar pour nous avoir encouragés à lire Lorca à partir de deux domaines qui sont vraiment sans cesse entrelacés, qui sont la linguistique et la littérature. À partir de cette habitude ou même cette manie personnelle toujours présente de chercher ce qui est caché derrière les mots, nous allons démontrer d'une façon toujours personnelle naturellement comment Lorca façonne l'identité des personnages dans Doña Rosita la Soltera ou El Lenguaje de las Flores à partir de l'absence. Pour ce, nous avons employé ce livre, hein, naturellement, que vous avez la référence, vous l'avez sur la feuille qui vous a été distribuée.
Il reste une.
Tiens, j'en ai là.
Merci, non, j'en ai là.
Merci. Voilà. Cette communication est naturellement, comme c'est de la linguistique, de la langue, je suis obligée de faire la communication à partir du texte original, c'est-à-dire en espagnol. Je ne peux pas analyser la langue de Lorca à partir d'une traduction. Donc, je suis bien obligée de faire en espagnol.
Mais on va comprendre.
Mais le texte, ouais. Ma communication est en français, naturellement. Voilà. Il est symbolique, naturellement, que la dernière pièce représentée du vivant de son auteur, Federico Garcia Lorca, renferme comme élément générateur l'absence. En effet, Doña Rosita la Soltera ou El Lenguaje de las Flores est bâtie à partir d'un vide qui détermine pratiquement tous les constituants de l'œuvre. Le titre même comporte un qualificatif à définition négative, la Soltera, qui ne peut être définie qu'à partir d'un manque, c'est-à-dire non mariée. Comparé à d'autres héroïnes de Lorca, Mariana Pineda, Belisa ou Bernard Alba, Doña Rosita est déjà caractérisée au début. La non-présence doit obligatoirement avoir sa manifestation verbale. Comprenant par là, qu'est-ce que je comprends par manifestation verbale ? Ce sont les différents moyens linguistiques, aussi bien explicites qu'implicites, qui permettent à l'écrivain de nous faire découvrir la vie de son héroïne, de la jeunesse à la maturité. La première intervention qui ouvre l'acte 1, alors là vous avez les exemples, hein, la première intervention qui ouvre l'acte 1 est celle de son oncle. On appelle El Tío, son oncle, qui constate l'absence de ses semences introuvables en posant la question « ¿Y mis semillas ?» Cette interrogation caractérisante, c'est le début de la pièce, hein, cette interrogation caractérisante, comprise comme comportement, impose dès le début une caractérisation du personnage de l'oncle et préfigure déjà son obsession botanique. C'est la carence qui permet de dépeindre le père adoptif, lui-même substitut de la perte des parents de Rosita. Et c'est aussi le père infécond qui reporte les soins parentaux sur les fleurs. Il s'agit alors, dans notre texte, d'une auto-caractérisation, c'est-à-dire qui provient directement du personnage, qui établit à partir d'une conduite, certes verbale, mais l'intérêt ne porte pas sur ce qui est dit, mais qui n'est pas du tout une description, mais sur le fait d'énoncer une question. Et c'est cette question qui dévoile la préoccupation. Cette absence des semences permet à l'oncle d'évoquer une autre absence, celle de souci et de respect pour les plantes chez les deux personnages, sa femme et la nourrice. Cette intervention présente, sous la forme de présupposé, la négligence évoquée. L'oncle dit « Es necesario que cuide las flores ?» La réplique de la nourrice « Si lo dice usted por mí ?» provoque une accusation, caractérisation plus explicite, qui débouche sur une hétérocaractérisation, c'est-à-dire une caractérisation qui émane d'autres personnages, discursive, de ses interlocutrices. L'oncle répond « Lo digo por todos. Ayer me encontré las semillas de dahlias pisoteadas por el suelo. ¿No os dais cuenta de mi invernadero? Desde el 807 en que la condesa de Wandes obtuvo la rosa muscosa, no la ha conseguido nadie en Granada, más que yo, ni el botánico de la universidad. Es preciso que tengáis más respeto por mis plantas. Nous allons signaler toutefois que l'oncle profite de cette critique pour s'auto-caractériser au moyen d'un discours auto-louangeur qui le présente comme un botaniste éminent. Mais cet acte, en tant qu'action et non pas en tant que discours, montre son manque de considération vis-à-vis du genre féminin. À un autre moment, toujours au premier acte, Rosita entre en scène s'exclamant « Y mi sombrero ?» reproduisant la formule, encore une autre fois interrogative, de son oncle, qui manifeste l'absence d'un objet, dans ce cas-ci son chapeau, et qui est reprise par une deuxième question « ¿Dónde está mi sombrero ?» Nous voilà devant un autre cas d'autocaractérisation comportementale. Cependant, le trait distinctif repose non pas sur la préoccupation de sa coiffe, mais sur l'absence de patience de la protagoniste. Cette autocaractérisation est renforcée par une hétérocaractérisation discursive de Rosita qui est développée par la nourrice dans une de ses répliques à sa maîtresse qui a trouvé le chapeau. Elle lui dit « Es que todo lo quiere volando ?» Hoy ya quisiera que fuese pasado mañana. L'acte 2, qui commence par un dialogue entre l'oncle et le professeur d'économie, el señor X, n'a pas d'importance par rapport à l'action. Il sert principalement à marquer un changement d'époque. Le dialogue s'interrompt brusquement quand monsieur X pose une question formellement identique à celle qui ouvrait le premier acte. Il dit « Y Rosita ?» La formulation de la question qui met en relief l'absence de Rosita sert à auto-caractériser M. X comme le prétendant qui laisse un pendentif pour sa fête. Encore une fois, cette caractérisation est intensifiée par la nourrice qui insiste insolente « También este pretender Rosita ». Le troisième acte s'ouvre encore une fois sur un énoncé interrogatif formulé ici par la tante « ¿Y la niña ?» C'est à nouveau la constatation d'une absence qui relance l'action 10 ans plus tard. Donc, l'absence et l'interrogation qu'elle provoque sont les facteurs qui déclenchent l'intrigue au début des trois actes, de même que la caractérisation psychologique de l'oncle, de Rosita, de la nourrice et de M. X. Mis à part ces questions, à l'ouverture de chaque acte, les personnages principaux sont caractérisés à partir d'absence d'éléments. Ainsi, Rosita est hétérocaractérisée d'orpheline par sa tante, qui n'a jamais voulu la contrarier, parce qu'elle dit « Quien apena a una criatura que no tiene padres ?» Cette absence est comblé par l'oncle et la tante, comme le constate la nourrice. Pero tiene un tío y una tía que valen un tesoro. Inversement, Rosita compense l'absence de cet enfant qu'ils n'ont pas eu. Les appellatifs hija, hija mía et niña, prononcés par la tante, révèlent cet aspect maternel non assouvi. Mais remarquons que la présence paternelle se reporte plutôt sur les fleurs, fruit d'une procréation végétale. Le seul moment où l'oncle est vraiment présent, c'est lorsqu'il récite le poème de la Rosa Mutabile, représentation du destin de Rosita. L'oncle est caractérisé par Monsieur X. Il est réduit à n'être qu'un cultivador de rosas, prisonnier dans son univers de quietismos et ideas oscurantistas. Lui est indifférent à la vie du monde, il accepte et assume parfaitement cette condition avec cet énoncé fataliste « Cada uno vive como puede y como sabe en esta vida diaria ». L'absence de l'oncle dans les obligations de cette vie quotidienne et son manque d'habileté dans la gestion de l'argent provoque la ruine de la famille, qui débouche sur le dénouement fatal de la pièce, naturellement. Au troisième acte, un peu avant la fin du drame, la tante reproche à son mari défunt cette attitude à partir d'insultes caractérisantes. Elle dit « Viejo tonto, pusilánime para los negocios, chalado de las rosas, hombre sin idea del dinero, me arruinaba cada día, el manierroto, el débil. » Il est certain, cependant, qu'elle réhabilite aussitôt la mémoire de son mari au grand cœur, cette âme chrétienne qui venait en aide à tous les nécessiteux et qui avait été capable d'hypothéquer ses biens pour le bonheur de sa nièce, sans prévenir sa femme. Ce qui laisse entrevoir une absence absolue de rapport communicationnel, encore une autre fois, compensé par les échanges savants avec le professeur d'économie. Il préférait se taire plutôt que se disputer avec elle. L'oncle refuse ainsi la dispute, se rendant à l'évidence que le temps a consommé leur amour. Je regrette. Hein.
C'est parce que c'était pas de l'amour, c'était un semblant.
Malgré tous les reproches, il laisse chez sa femme un vide toujours présent, rempli par un souvenir qui prend parfois la forme d'une caractérisation positive alors qu'elle était toujours négative de son vivant. Cette absence de communication est suppléée chez la tante par ses diverses conversations avec la nourrice. Chaque fois que la nourrice se réfère à sa famille, c'est pour mettre en relief l'absence des enfants qu'elle laisse à la maison pour aller s'occuper de Rosita, ou l'absence des défunts, puisqu'on apprend au troisième acte qu'elle a déjà enterré son mari et l'un de ses enfants. C'est à partir de la réclamation du droit à la parole, de l'absence de liberté d'expression, qu'on apprend à connaître son histoire. Au deuxième acte, la tante somme la domestique de se taire toutes les fois qu'elle donne son opinion sur le fiancé absent. Elle ignore cet ordre, poursuivant son discours véhément, maudissant bien souvent le faux prétendant. La tante témoigne par ses actes de l'absence d'acceptation, l'échec de la relation et la trahison de son neveu. La nourrice, par l'attitude qu'elle montre dans ses allocutions éhontées, s'auto-caractérise comme une personne réaliste qui comprend parfaitement la situation que sa maîtresse cherche à dissimuler. L'absence personnelle de ses êtres chers ne l'attache point au passé, bien au contraire. Elle sait faire face aux moments les plus désolés. La nourrice préconise ce sentiment positif de surpassement à la tante, proposant de venger l'affront suscité par la trahison du fiancé. La nourrice est la force qui anime ses maîtresses lorsqu'elles doivent abandonner la demeure familiale. Yo soy la que tiene que dar ánimos en este duelo sin muerto, dit-elle. Refusant de s'accrocher à l'absence et de se replier sur elle-même, elle prend leur destin en main, avançant tout naturellement qu'elle pourrait se mettre à table en arrivant dans leur nouveau foyer. On entend des propos quotidiens qui choquent avec le dramatisme du moment. Elle dit « Ahora, cuando lleguemos, tengo la comida hecha. De postre flan. A usted le gusta. Un flan dorado, como una cabellina. » La tante, absente au dire de la gouvernante, semble s'agripper au passé, faisant cas uniquement du bruit de la porte de la serre, troublant, ensorcelant le fantasme du mari, de l'absent revenant, capable de la hanter même après leur départ. La nourrice l'arrache à cet état d'hypnose par une sommation valeureuse et elle lui dit « Vamos !» L'absence d'acceptation chez la tante est une posture feinte vis-à-vis de l'extérieur, des gens, qui la caractérisent comme la typique bourgeoise hypocrite. Elle comprend parfaitement la situation, ce qui apparaît dans sa conversation privée avec son neveu. Elle dévoile son opposition à la relation entre Rosita et le cousin, parce qu'elle s'imaginait qu'il allait partir naturellement. De par son caractère bourgeois, elle l'oblige à quitter Grenade, où il ne serait que un paseante de los jardinillos, c'est-à-dire un flâneur des argentés. Enfin, c'est ma traduction. Hein. Lui laisse entendre son intention de se marier, mais elle désapprouve l'idée du départ de sa nièce pour l'Argentine. Manquant de générosité, elle préfère une Rosita seule entre quatre murs et laisse déjà entrevoir l'infidélité et l'absence finale. Le troisième acte démasque chez la tante cette prévision infortunée, puisqu'elle lui reproche de ne pas avoir écouté son conseil, oublier l'absent et se raccrocher au présent, en épousant un autre homme. Cependant, la bourgeoise hypocrite qui oblige les femmes à se taire réagit et récupère l'absence de présence qu'elle préconisait jusque-là. Elle reconnaît quand même « Ese es el defecto de las mujeres decentes de estas tierras. No hablar. No hablamos y tenemos que hablar. » Elle revendique le droit d'expression quand elle s'exclame « Alguna vez tengo que hablar alto. » Pour délivrer Rosita, elle lui dit « Sal de tus cuatro paredes, hija mía, no te hagas a la desgracia. » Bien qu'à la fin de la pièce, la tante se raccroche à sa pseudo-dignité, préférant l'absence de public au balcon par la grâce d'une pluie compatissante. Mais Rosita ne s'est pas toujours laissée aller au malheur. Le premier acte caractérise une Rosita comblée d'illusions, de joie, de bonheur, état d'âme que nous percevons dans l'auto-caractérisation que l'héroïne offre d'elle-même à partir de ses faits et gestes. Elle entre ou sort toute contente au début de la pièce. Elle rit avec les Manolas, tisse avec elle un poème plein de complicité et d'allégresse. C'est juste après qu'elle apprend le départ imminent de son fiancé et que tout change. Le poème, tissé à l'origine avec ses amis, termine et un autre commence avec le cousin. Ce dernier prend l'allure, cette fois-ci, d'une véritable conversation où la joie fait place au repentir, aux lamentations, aux mauvais présages et finalement à l'incertitude. Chacun d'eux, correspondant aux quatre premières interventions de Rosita, dans la conversation poétisée sous forme de disant. Après le départ de son fiancé, Rosita, qui prévoit déjà son destin, reprend tout le poème de la Rosa Mutabile qui prend alors toute sa valeur. Au deuxième acte, son état d'âme change. Elle déclare ne pas savoir si elle est contente. Dans l'espace clos qu'est la maison, elle n'est pas consciente du passage du temps, c'est-à-dire de l'absence. Donc elle est contente. Elle s'aperçoit de l'absence quand elle sort dans la rue et qu'elle voit les nouveautés et les transformations produites par le temps. Elle dit, si no viera a la gente, me creería que hace una semana que se marchó. Le reniement du passage du temps qui lui permet de rester fidèle à son espérance. Yo espero como el primer día, dit-elle. Mais consciente que les années passent, elle refoule les conséquences. Además, ¿qué es un año? Ni dos, ni cinco. Elle a beau ne pas sortir, le temps, lui, pénètre inexorablement à travers les visites de ses amis. Les médisantes ayolas imposent à Rosita la question qu'elle essaie continuellement d'éviter, celle du passage du temps. « Quanto tiempo hace de esto ?» lui dit la seconde ayola. Toutes contribuent à rendre Rosita consciente que le souvenir du fiancé disparaît peu à peu. Le temps fait s'estomper dans sa mémoire ce visage amoureux marqué par une cicatrice. Elle a perdu la présence de son fiancé. Elle perd le souvenir de cette présence. Il ne lui reste donc que l'espoir qu'elle ne veut pas perdre. Cependant, c'est une femme. Et elle se permet donc de regarder d'autres hommes. En l'occurrence, le saltimbanque. Excusant pudiquement son attitude par une prétendue ressemblance avec son fiancé. La lettre si attendue, qui annonce le mariage, alimente cet espoir. Et la mise en scène, construite à partir de phrases courtes, de questions, d'exclamations, d'exhortations expectantes, crée une atmosphère de suspense euphorique, confirmée finalement par Rosita en personne. « Que se casa conmigo, porque ya no puede más. » Or, il y a un mais, un pero. La lettre, proposant un mariage par procuration, manifeste l'absence du futur mari. Dans l'impossibilité d'assister à son union légitime, provoquant ainsi la question de la nourrice qui dénonce la non-présence physique de l'époux, « Y por la noche, ¿qué ?» dit-elle. Mettant au jour par là l'absence de consommation du mariage. Rosita, absente au rire de son entourage, refusant de perdre l'espoir, semble accepter cette proposition, alléguant que son fiancé ne tardera pas à venir. C'est une preuve encore de son amour pour elle. Après 15 ans d'éloignement, ce mariage par procuration est le dernier recours qui lui reste pour se cramponner à l'espérance. Incarnée par cette Rosa Mutabile encore rouge, fraîchement coupée par l'oncle. Elle a été coupée peu avant sa dégénérescence, avant de devenir blanche, symbole d'une Rosita qui aurait passé l'âge de la jeunesse. Cette union par procuration représente alors le statut de l'héroïne aux portes de la maturité. Le troisième acte révèle la consommation de l'absence. On apprend que le fiancé, malgré une correspondance régulière avec sa promise, n'a jamais envoyé la procuration salvatrice et qu'il a épousé un très bon parti. Rosita est hétéro-caractérisée par sa nourrice, qui la décrit comme une vieille fille. Porque quien quiere ya esta mujer, ya está pasada. Cette caractérisation est renforcée par la description physique que Lorca lui-même indique avant l'entrée en scène du personnage à l'acte 3. Il écrit « Está muy avejentada ». Ici, Rosita a perdu tout espoir, à tel point qu'elle reproche à sa tante d'insister sur un futur mariage, reprenant fâchée et résignée les mêmes termes employés à l'acte 2 par sa nourrice. « No me haga usted hablar ». Rosita reconnaît finalement qu'il n'y a plus d'issue, qu'elle était au courant de tout, mais qu'elle espérait toujours pour le qu'en dira-t-on. S'auto-caractérisant comme une hypocrite, elle admet « Si la gente no hubiera hablado, si vosotras no lo hubierais sabido, si no lo hubiera sabido nadie más que yo, sus cartas y su mentira hubieran alimentado mi ilusión como el primer año de mi ausencia. » Pero lo sabían todos, y yo me encontraba señalada por un dedo que hacía ridícula mi modestia de prometida y daba un aire grotesco à mi abanico de soltera. Elle est devenue la solterona rancunière, désireuse de fuir quand elle entend « A esa no hay quien le clave el diente ». Cette vieille fille, toujours amoureuse, dévorée par une affreuse contradiction. El más terrible de los sentimientos que es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Y la esperanza que la persigue, la ronda, la muerde, como un lobo moribundo que apretará sus dientes por última vez. Quand elle n'a plus d'espoir, il ne lui reste que la dignité. Elle-même se refuse le droit à la parole, ce qui supposerait que les autres puissent découvrir son intimité. Honteuse, elle refuse de parler avec qui que ce soit, sauf avec sa tante et sa nourrice. Mais elle ne veut même pas leur parler, ce qui serait inutile, car elles sont incapables de la comprendre. Elle ne lui offrirait que compassion, que Rosita repousse absolument. « Vamos, no me agrada que miréis así, que me miréis así. Me molestan estas miradas de perros fieles. » Esas miradas de lástima que me perturban y me indignan. Elle s'autocaractérise péjorativement comme solterona, mais elle refuse de ressembler à la sœur de sa tante, solterona comme elle, acariâtre et méchante quand elle affirme « pero yo no seré así ». L'espoir fait place à la résignation, puisqu'elle avoue que tout est perdu. Sa condition de vieille fille est intensifiée lorsqu'elle, muchacho, fils d'une des Manolas, s'adresse à elle au moyen de l'appellatif Doña Rosita, englobant à la fois son âge et son état civil, qu'elle fait résonner elle-même comme un écho. C'est à ce moment précis que le titre de la pièce prend tout son sens, et qu'à partir de cet instant, Rosita sera, pour le monde extérieur, pour la société, Doña Rosita, mais jamais Doña Rocha. Pour conclure, je dirais que Lorca façonne donc l'identité des personnages à partir de l'absence, différente chez chacun d'eux, mais semblable en tant qu'élément constructeur du caractère de chaque protagoniste. Cette absence se manifeste soit par le discours, on se décrit soi-même ou on décrit d'autres personnages, soit par le comportement. Notre analyse pourrait s'appliquer, bien entendu, à tous les personnages de la pièce. Cependant, le caractère dynamique et riche de certains l'emporte sur la nature plus statique, ornementale, représentative de divers types sociaux, de l'époque naturellement. Le fiancé, symbole de l'absence dans tous ses états, a un rôle clé, bien que limité, réduisant sa présence à la mise en place de l'événement à partir duquel se déclenche l'action. L'absence est la grande protagoniste. C'est elle qui commence et qui termine la pièce. Au début, ce sont des éléments symboliques, introuvables, mais qui apparaissent. Ensuite, des personnages qui meurent ou qui partent pour toujours, qui laissent un vide irremplaçable et qui provoquent la ruine économique et émotionnelle de Rosita et de ses deux mères aimantes, la mère adoptive et la mère nourricière. Voilà, merci beaucoup.
Je ne dirais pas que tu m'as réconcilié avec la linguistique.